tout de suite, c'est le énervé, la suite, le combat continue. Side Action, mobilisation ce soir. Avant de commencer, on fait un petit tour de table pour les présentations. Comme ça, on va caler les micros de chacun et de chacune. Florence Thune, je commence par vous. Vous êtes directrice générale du Side Action. Ça vous va comme présentation ?
Impeccable.
Sarah-Witt Bruck-Landais, vous êtes directrice du service programmes scientifiques et médicaux pour le Side Action. C'est bon ?
C'est bon.
Daniel Messager, vous êtes journaliste spécialiste santé à la rédaction de France Inter.
Tout à fait.
Et Sullivan Lepostec, vous êtes scénariste et créateur de la série Les Engagés.
C'est bien ça, parfait.
Alors la présentation, ça a l'air nickel. Générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Bonsoir et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Ce soir, on est à J-3 de la 25e édition du Side Action avec cette fois pour parrain Jean-Paul Gaultier, aux côtés de Lynn Renaud, vice-présidente et toujours présente depuis 25 ans. La première opération transmédiatique, c'était le 7 avril 1994. 25 ans plus tard, où en est le combat? Pendant 3 jours, du 5 au 7 avril, une trentaine de médias, dont Radio France et France Inter, remettent en avant sensibilisation et information sur la lutte contre le sida, car si vivre avec le VIH est possible, le virus est toujours là et la désinformation sur le sida, n'en parlons pas. Alors quels sont les enjeux aujourd'hui pour le Side Action? En quoi cette opération médiatique est d'utilité publique? Et au-delà de la prévention et de l'information sur le VIH, comment vit-on avec le virus en France aujourd'hui et ailleurs bien sûr dans le monde? Où en est la recherche? Quelles sont les dernières avancées? Toutes ces questions se bousculent au moment où on sent une démobilisation médiatique et un sursaut dans la fiction. Oui, 120 battements par minute, plaire, aimer, courir au cinéma, Fierté sur Arte, Les Idoles au théâtre, Les Engagés en série sur France Télé. Rien n'est gagné, mais tout n'est pas perdu.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Benoît Lagane.
Oui, il y a 25 ans, Laurent, pour la première fois de l'histoire de la télévision, toutes les chaînes de télé de l'époque s'étaient unies pour proposer un programme commun. Dit comme ça à l'heure des plateformes numériques et des vidéos à la demande, ça ne surprend personne. Et pourtant, pour l'année 1994, c'était une révolution, c'était d'une force symbolique. Voir le temps d'une soirée, toutes les chaînes concurrentes, on était quelques années à peine après la privatisation de la télévision, mettre en commun leurs forces et leurs moyens pour s'unir dans la lutte contre le sida, mais ça restera comme un des grand moment de la télévision. Side Action de 1994 à nos jours. Rapide résumé des épisodes précédents signé par nos réalisatrices Marion Lullet et Juliette Medevielle.
Moi, je ne suis ni Dieu ni diable. Je suis un homme comme vous. Pourtant, je suis séropositif.
La maladie du sida doit être combattue et ne doit plus être synonyme de honte.
Après tout, on est là pour s'unir. J'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche. Voilà.
Contre le virus du sida, le moindre abandon peut tout changer. Mais le moindre don aussi peut tout changer.
Faites vos dons au 110 ou sur sidaction.org.
Alors 25 ans après, on en est où? Chaque année durant un week-end, les médias jouent le jeu, mais chacun de leur côté. Le fameux ruban rouge apparaît ici et là, accolé au logo des chaînes en haut à droite de l'écran. D'autres médias, dont Radio France, France Inter, soutiennent également le projet. 25 ans après, la banalisation de l'épidémie du virus de sida, qu'est-ce qu'on fait? Bien, les chaînes historiques de la télévision ont décidé de proposer, à nouveau, comme il y a 25 ans, un programme commun. Certes, un programme court, qui sera quand même diffusé à une heure de grande écoute, à 20h41 sur plusieurs chaînes, de 20h41 à 20h45. M6, étrangement, va le diffuser un peu plus tard.
De 20h41 à 20h45.
Un clip partout.
C'est vrai que c'est court.
Hein. Et c'est court. Ça a changé. Mais au moins, ils se réunissent tous et au même moment, ils diffusent ce document. Mais moi, la question que j'avais envie de vous poser, justement, Florence Thune, c'est que, certes, en 94, c'était important que toutes les télévisions s'unissent. Mais aujourd'hui, à l'heure des plateformes, de la vidéo à la demande, où chacun regarde finalement son programme, chacun de son côté, comment, justement, un événement comme Side Action peut-il et doit-il être relayé sur l'ensemble des médias et plus uniquement les chaînes de télévision?
Alors effectivement, c'est un réel enjeu aujourd'hui de continuer à pouvoir parler de l'épidémie et de la question du VIH sur l'ensemble des chaînes alors médiatiques qui sont nos partenaires historiques. Et je pense qu'il faut aussi se rappeler qu'en 94, il n'y avait pas autant de chaînes. Donc c'est aussi un événement aussi important de pouvoir certes appeler les chaînes historiques, mais faire participer aussi. On a 30 partenaires maintenant, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là.
Il y en avait 6 chaînes du coup.
Voilà, tout à fait. Oui, avec RFO à l'époque. Et de fait, on entendait dans le petit extrait à quel point le baiser de Clémentine Salarié avait été un point fort. Je pense on pourrait le refaire aujourd'hui, parce que de fait, vu les tabous qui persistent, malgré la science qui a progressé, ce baiser, il ne serait pas, il reste encore.
Les tabous persistent encore de cet ordre-là.
Tout à fait.
La contamination
oui.
comme ça, en embrassant quelqu'un ou en prenant la petite cuillère, non?
Vous savez, on fait ce sondage tous les ans auprès des jeunes, qui révèle à quel point les tabous persistent. Et notamment, on a une petite question qu'on pose tous les ans et qui est seriez-vous prêt à faire l'amour avec une personne séropositive en utilisant un préservatif? 25% nous répondent que non, avec un préservatif. Donc on voit à quel point on est effectivement dans les tabous et dans l'irrationnel sur la question du VIH.
Mais pour quelle raison, aujourd'hui, il était difficile de refaire, on reviendra sur le sondage tout à l'heure plus précisément, mais il était difficile de refaire une émission d'aussi grande ampleur comme il y avait eu en 94. Qu'est-ce qui freine, justement, des dérapages, entre guillemets, je le dis, entre deux gros guillemets, comme le baiser de Clémentine Larrey, par exemple, parce qu'aujourd'hui, peut-être que les téléspectateurs seraient plus offusqués qu'à l'époque, vous pensez?
Non, je crois pas. Je crois pas que ça relève de cet aspect. Ouais, je pense que c'est plus lié aujourd'hui au climat. Alors, je vais pas dire le mot qu'il faut, mais concurrentiel peut-être entre les chaînes. C'est peut-être sûrement plus compliqué de pouvoir effectivement réunir ces chaînes sur un même programme et autant de chaînes. On a réussi justement à décrocher ces 5 minutes. On en est très très fiers parce que ça va être un moment important. Et les chaînes là pour le coup ont montré que pour ces 5 minutes, elles étaient prêtes à se mettre ensemble et à oublier voilà ce qui est aujourd'hui la réalité de la concurrence.
Sullivan Le Possec, vous qui travaillez pour la télévision, qui fabriquez des séries, comment vous regardez la façon notamment dont la télévision prend en charge cette question-là aujourd'hui? Vous avez l'impression qu'on peut quand même plus facilement montrer et dire des choses aujourd'hui?
C'est compliqué, c'est assez paradoxal parce qu'effectivement, je trouve que la réalité de l'épidémie aujourd'hui est extrêmement peu traitée en fait. La situation, elle a beaucoup changé. Il y a énormément. En fait, ce qui est frappant, c'est que pour dire les choses, en fait, on a aujourd'hui des armes qui peuvent permettre d'éradiquer l'épidémie. En fait, on va parler de tout ça dans l'émission, mais avec la PrEP, le fait que le traitement, les personnes séropositives sous traitement ne sont plus contaminantes, donc on peut faire l'amour avec elles dans l'absolu, même sans préservatif, sans être contaminé. Donc, on a vraiment des moyens aujourd'hui pour mettre fin à l'épidémie. Et qu'est-ce qui l'empêche en fait? Ben, c'est le manque d'information. C'est le fait que les gens ne connaissent pas les outils qui sont à leur disposition et ils ont été effectivement relativement peu mis en scène à la télévision et même dans la fiction qui a beaucoup abordé l'époque de la grande crise des années 80-90 et qui a beaucoup moins parlé des années post-trithérapie et de ce qui s'est passé depuis qui a été vraiment des changements profonds.
Daniel Lesager, à propos de la PrEP, on en est où en fait? Ça consiste en quoi? Parce que c'est pas simplement pour le VIH en fait.
Alors la PrEP, c'est un médicament qui est pris pour éviter d'être contaminé, donc qui s'adresse aux personnes séronégatives. Et ce médicament, s'il trouve ADA, c'est un médicament qui est utilisé pour le traitement du VIH aussi. Ce médicament peut être pris soit en continu, soit avant un rapport sexuel ou quelques heures après un rapport sexuel. Donc c'est clair, c'est ce que disait Sullivan, moi je le rejoins tout à fait là-dessus. Il y a aujourd'hui dans le monde les moyens d'éliminer le virus du sida. Si on mettait l'argent qu'il faut pour que toutes les personnes séropositives soient sous traitement, parce que effectivement, si toutes les personnes séropositives étaient sous traitement, elles ne contamineraient plus, donc il n'y aurait plus cette progression du virus. Les personnes séronégatives, alors, elles pourraient prendre la PrEP. C'est pas destiné forcément à toutes les populations, on est bien d'accord. Mais il existe quand même un médicament qui fait qu'on peut ne pas être contaminé. Si on ajoute à ça les dispositifs traditionnels que sont le préservatif et bien évidemment le dépistage, puisque pour savoir si l'on est contaminé et si l'on doit être sous traitement, il faut savoir son statut, donc il faut être dépisté. Donc si l'on mettait tous ces moyens à la suite, effectivement, on pourrait éradiquer le virus du sida dans le monde.
Pourquoi on n'en est toujours pas là 25 ans après?
Eh bien,
qu'est-ce
je pense,
qui résiste?
D'une part, parce qu'on ne met pas les moyens pour les populations. Les populations riches comme les nôtres, elles ont les moyens d'être traitées. Effectivement, les personnes séropositives, elles sont sous traitement dans les pays riches. Les personnes dans les pays qui ont moins de moyens le sont beaucoup moins, non pas parce qu'elles ne souhaitent pas le prendre, elles souhaiteraient évidemment prendre ce traitement. Parce que même si les génériques sont devenus majoritaires et qu'effectivement ça coûte beaucoup moins cher que lors de l'apparition des premiers traitements, c'est encore difficile pour des questions d'organisation, pour ces personnes de connaître leur statut, de se faire dépister. Il n'y a pas des centres de dépistage comme il y en a partout chez nous. Donc voilà, c'est toute une chaîne d'événements qui font qu'on n'y arrive pas, sauf qu'on pourrait y arriver si on mettait vraiment les
moyens. Mais enfin, vous parlez de la France. La France, il y a quand même 6000 nouvelles infections qui sont recensées chaque année de plus. Comment on peut expliquer un tel chiffre?
Héroïde Bruglandé.
Alors en effet, en France, c'est estimé à ce qu'il y a 173 000 personnes qui vivent avec le VIH, dont 6 000 qui découvrent leur séropositivité tous les ans. Et ça, c'est un chiffre constant depuis 10 ans. Ce qui montre que l'effort qu'on a sur le dépistage n'est pas suffisant. C'est-à-dire, on a à peu près 13 à 14% de la population infectée qui ne connaît pas son statut et qui nourrit justement ce côté de l'épidémie qui fleurit. Il faut savoir qu'il y a quand même plus que 5 millions de tests qui sont effectués tous les ans.
Quand même, ouais.
Mais par contre, on n'arrive pas à dépister tout le monde. Donc, ce dépistage n'est pas assez proposé pour les personnes qui sont à risque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les personnes qui sont dépistées doivent pouvoir avoir accès au traitement. Donc, le délai entre une personne infectée et qui sait son statut, il y a un délai de 3 ans. Et donc, ce temps est très important aussi pour nourrir ou aussi contaminer les personnes avec lesquelles ils ont des rapports. Donc, en effet, les paramètres sont multiples. Ce qui fait savoir son statut, c'est très important, mais le savoir assez tôt aussi reste un challenge qu'on n'a pas su surmonter.
Mais Florence Thune, est-ce que c'est parce qu'aussi on a un peu crié victoire trop tôt? On a eu l'impression, comme le disait Sylvain tout à l'heure, que finalement on pouvait vivre avec le VIH, qu'il n'y avait plus de problème avec le SIDA. Donc du coup, peut-être que des personnes ne veulent pas ou ne vont pas se faire dépister parce qu'ils se disent que tout va bien. Est-ce qu'on n'a pas crié victoire trop tôt?
Je pense que ça en fait partie. En tout cas, il y a plusieurs raisons. Il y a à la fois le fait que, malgré tout, apprendre sa séropositivité, on reste trop sur l'image un peu de la mort liée au VIH. Et donc, les gens continuent à avoir peur parfois à aller se faire dépister, tout simplement, parce qu'ils imaginent encore quelque chose qui est très mortifère par rapport au VIH et ne savent pas encore suffisamment qu'on peut vivre, j'aime pas le mot normal, mais en tout cas, qu'on peut vivre avec le VIH, en tout cas. Je pense qu'on a aussi une question qui est relative aussi, pas seulement aux moyens techniques et financiers, mais aussi à ce que peut représenter la stigmatisation de certaines personnes pour aller vers les soins. On voit bien que dans le monde entier, on a des personnes gays, des travailleurs du sexe, des usagers de drogue, qui, pour aller vers les soins, quand vous êtes dans un pays où on criminalise l'homosexualité, où on criminalise l'usage de drogue, vous aurez beau avoir le souci de votre santé, voire les moyens, c'est-à-dire les traitements disponibles, si les personnes ne peuvent pas aller vers les soins en disant « je suis gay, je suis usager de drogue » sans risquer la prison ou autre, on est aussi face à un accès qui va au-delà de l'aspect, et y compris en France, on va aussi au-delà de l'aspect financier uniquement.
Retour dans le passé. En 1989, Lou Reed se plongeait dans le New York du sida. Halloween parade dans le NRV. There's a downtown fair singing out proud Mary as she cruises Christopher Street. And some southern queen is acting loud and mean where the docks and the badlands meet. This Halloween is something to be sure of. Especially to be here without you. There's a Greta Garbo and an Alfred Hitchcock and some black Jamaican stud. There's 5 Cinderellas and some leather drags. I almost fell into my mug. There's a Crawford Davis and a tacky Cary Grant. And some homeboys looking for trouble down here from the Bronx. But there ain't no Harry and no Virgin Mary. You won't hear those voices again. And Johnny Rio and Rotten Rita, you never see those faces again. This Halloween is something to be sure of. Especially to be here without you. There's the Born Again Losers and the Lavender Boozers and some crack team from Washington Heights. The boys from Avenue B, the girls from Avenue D, a Tinkerbell and tights. This celebration somehow gets me down. Especially when I see you're not around. There's no Peter Pedantic saying things romantic in Latin, Greek, or Spic. There's no Three Bananas or Brandon Alexander dishing all their tricks. It's a different feeling that I have today. Especially when I know you've gone away. There's a girl from Soho with a t-shirt saying I blow. She's with the Jive 5, 2 plus 3. And the girl for pay dates are giving cut rates or else doing it for free. The past keeps knock, knock, knocking on my door.
don't want to hear it anymore. No consolations, please, for feeling funky. I gotta get my head above my knees. But it makes me mad and it makes me sad. And then I start to freeze. In the back of my mind, I was afraid it might be true. In the back of my mind, I was afraid that they meant you. The Halloween parade. At the Halloween parade. At the Halloween parade.
Ils viennent de dire le titre, hein, c'est Halloween Parade. C'est signé Lou Reed il y a 30 ans et la lutte continue.
France Inter.
Les jeunes continuent de prendre des risques. 14% reconnaissent avoir été au moins une fois en situation d'être contaminés. 6 fois sur 10, ils ne sont pas allés se faire dépister.
Le nouveau rendez-vous.
Les vieux ne jouent pas qu'au Scrabble.
Laurent Goumard.
Ils ont une vie sexuelle. Il y a certainement un relâchement qui est dû au fait que, bon, je suis arrivé à un certain âge maintenant, qu'est-ce qui peut m'arriver ?
En France, 153 000 personnes vivent avec le VIH. 25 000 ignorent qu'ils sont séropositifs.
SIDAction, 25 ans après, où en est le combat ? À 3 jours du week-end SIDAction, hein, du 5 au 7 avril, on se demande où en est la prévention et la recherche. Ce seront les deux angles de cette deuxième partie. Pour en parler, Florence Thune et Sérawit Brooklandais du SIDAction, Daniel Messager de France Inter et le scénariste Sullivan Le Postec. Alors d'abord la prévention. Le SIDAction vient de publier un sondage réalisé par l'IFOP Bilandi auprès de jeunes de 15 à 24 ans. Et le constat est très clair, même accablant. 23% des jeunes s'estiment mal informés sur le sujet. C'est 12 points de plus par rapport à 2009. Comment on explique un tel décalage ? Qu'est-ce qui se passe, Florence Thune ?
Alors,
ça veut dire que l'éducation nationale ne fait rien, par exemple ? Est-ce que c'est à l'éducation nationale, d'ailleurs, de prendre ça en charge ?
Alors, on estime que, à minima, l'éducation nationale devrait assurer ces fameuses 3 heures annuelles de prévention et de sensibilisation, d'éducation à la sexualité auprès des jeunes. Ils le font pas partout. Ça se fait dans certains lycées, pas partout. Et on ressent effectivement que, pour le coup, les étudiants ou d'ailleurs au milieu universitaire également, hein, mais en tout cas les lycéens sont en attente d'informations de l'éducation nationale. Hein. Alors, ce qui est important aussi, c'est que on a parfois ces heures qui sont faites, mais qui sont faites par les profs. Alors, parler de sexualité avec ses profs, c'est quand même pas compliqué.
Ouais,
C'est
pas très compliqué, ça dépend du prof avez. Hein, manifestement, vous avez eu une adolescence joyeuse.
Hein. Et de fait, on voit à quel point c'est plus facile avec une association extérieure, par exemple, et notamment quand il s'agit de parler d'orientation sexuelle, d'homosexualité, et de parler vraiment sans jugement. Parce qu'une fois qu'on peut parler de sexualité, de la question du consentement, par exemple, après, on peut parler plus facilement de la question du VIH, du préservatif et de la protection.
Daniel Messager ?
Oui, plus globalement, ce que disait Florence, c'est effectivement une éducation sexuelle dans sa globalité. Hein. C'est vrai que dire de mettre un préservatif, c'est bien, mais au-delà de ça, il faut raconter ce que c'est que les premiers rapports entre les garçons et les filles, entre les garçons, filles. Et puis, il faut expliquer qu'il faut avoir le consentement de l'autre, il faut expliquer ce que c'est qu'une violence sexuelle. Enfin, c'est plus globalement ces histoires d'éducation à la sexualité qui sont pas très bien faites en France, qui sont très bien faites, par exemple, dans les pays scandinaves ou même aux Pays-Bas aussi.
Ah
mais
oui.
Ça, c'est pas très bien fait en France parce que c'est fait depuis le tout petit âge. Dès la maternelle, on va pas raconter aux enfants comment mettre un préservatif, mais on va parler du rapport à l'autre et on va parler du respect qu'on doit envers l'autre, quel que soit son sexe. Voilà, tout ce qu'on apprend très jeune dans ces pays-là et qu'on a du mal à faire en France. Et effectivement, c'est pas forcément aux profs de sciences nat de le
science
faire.
Sciences nat, ça s'appelle encore comme ça ?
Non, c'est
la même génération. On a eu les mêmes, Daniel Messager.
SVT, sciences et vie de la Terre.
SVT, mais ça peut être très bien fait et ça l'est par exemple par le CRIPS, qui est le Centre Régional d'Information Prévention SIDA, qui envoie des personnes dans les écoles, dans les collèges et lycées pour faire ce type d'éducation. Ce sont des gens extérieurs qui apportent un regard extérieur et qui sont très bien perçus en général par les élèves.
Et comment ça se passe dans les associations, notamment d'aide aux jeunes gays ? Parce que vous, votre série Sullivan Le Postec, elle s'intéresse au militantisme, à l'engagement de ces jeunes dans le cadre de ce type d'association. Est-ce qu'on sent aussi que, avant d'écrire, hein, vous vous êtes intéressé, vous avez rencontré les gens de ces associations, est-ce qu'ils ont noté aussi qu'il y avait de jeunes gays qui connaissaient moins les questions aussi en lien aussi là, alors que pendant longtemps, au moins cette population-là, elle connaissait les enjeux.
Oui, c'est clair que en fait on voit un certain déficit d'information qui est mené en parallèle du fait qu'effectivement la technicité du sujet a augmenté en complexité. En fait, effectivement, les données sont un peu précises, que les stratégies de prévention sont différentes. Le fait qu'effectivement une personne qui est sous traitement, elle est plus contaminante, que sa charge de virus est complètement indétectable, donc il n'y a plus possibilité de transmettre la maladie. Donc ce que ça implique, l'existence de traitements comme préventifs comme la PrEP, de traitements post-exposition si on a pris un risque, etc. Donc il y a beaucoup de données qui sont à connaître, et c'est vrai que du coup, comme pas assez de temps est consacré à tout ça, tout ça peut prendre le risque de se mélanger et de fabriquer quelque chose d'un peu brouillon au lieu de la clarté qui est nécessaire, en fait.
Alors après la prévention, la recherche, on en est où dans la recherche aujourd'hui? On sait qu'on vit mieux avec le VIH, mais est-ce qu'on est proche d'avoir trouvé un moyen vraiment d'éradiquer le virus et de guérir les séropositif, d'après vous?
Alors, on n'a pas trouvé les moyens de guérir.
Sinon, on le saurait.
Ça reste une notion, une information importante, parce que dans le sondage, on a quand même les jeunes qui croient qu'on guérit du VIH. Les traitements actuels sont très bien tolérés, ils sont très efficaces pour contrôler le virus, c'est-à-dire ils empêchent la multiplication du virus, et comme ça a été dit, ils empêchent aussi la transmission du virus pendant des rapports. Mais on n'en guérit pas. Donc, il reste caché, le virus reste caché dans ce qu'on appelle les réservoirs. Et les champs de recherche actuels, c'est vraiment de savoir comment éradiquer ce réservoir, ou au moins comment se projeter dans un système ou un stade de rémission. C'est-à-dire que les personnes puissent contrôler le virus, ne pas le transmettre, sans pour autant prendre des antirétroviraux pour toute leur vie.
Oui, Daniel Messager.
Non, je voulais juste ajouter que on ne guérit pas effectivement de cette maladie, mais qu'on a fait finalement assez rapidement des progrès très importants. Les premiers antirétroviraux, ils sont apparus en 96, 97. Le virus du sida, on le connaissait enfin sous sa forme en 15 ans avant. Finalement, c'est quand même très rapide. On a fait quand même assez rapidement des progrès dans la prise de médicaments. On avait démarré avec une prise de médicaments très importante, et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On réfléchit maintenant à pas forcément prendre des médicaments tous les jours, avoir éventuellement un patch qui distillerait le produit sur quelques semaines. Et voilà, on avance quand même. Malheureusement, effectivement, comme vous le disiez, on ne guérit pas. Et tant qu'on ne guérit pas, il faudra répéter les messages de prévention encore et toujours.
Et dans les pays du Sud, dans le rapport notamment, vous parlez d'échecs thérapeutiques et de résistance au traitement, notamment dans les pays du Sud. On parle même de quatrième épidémie.
Oui, effectivement, c'est... on est effectivement très inquiet. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on constatait ces poches de résistance, mais là, on voit vraiment que ça peut prendre de l'ampleur. Une étude a montré qu'au Sénégal, 64% des enfants étaient en échec thérapeutique, et parmi ceux-là, une partie ne répond plus au traitement disponible. Donc là, on revient sur la question de tout à l'heure, hein, sur la disponibilité des molécules sous forme générique, parce qu'en France, quand on est en échec thérapeutique, on a la possibilité d'avoir un autre traitement qui nous fait repartir. Je dis nous, parce que je vis moi-même avec le VIH. Et de fait, malheureusement, dans des pays comme certains pays en Afrique, les enfants ou des adultes se trouvent déjà en état de résistance par rapport aux molécules qui sont effectivement disponibles sur place, avec de nouveau des personnes qui décèdent parce qu'elles n'ont plus accès à ces génériques, où les traitements sont beaucoup trop chers.
Il y avait aussi quelque temps, on parlait de la guérison d'un patient atteint du VIH après une greffe de cellules de moelle osseuse. C'est vraiment un cas complètement à part.
Ah oui, totalement. Ah, enfin, il y a deux cas, en fait. Il y a eu le premier cas qu'on a appelé le patient berlinois. Celui-ci, c'était un patient londonien. C'est des cas très, très particuliers. Alors, sur un plan scientifique, c'est très intéressant, mais il ne faut absolument pas en tirer des espoirs à grande échelle, parce que c'était des cas très particuliers, avec des personnes qui avaient une leucémie, sur lesquelles on a fait une greffe de moelle osseuse, qui avaient des modifications génétiques. Enfin, voilà, c'est pratiquement pas replicable. Ça l'a été une fois, puisqu'il y a deux cas maintenant, mais voilà, on ne peut absolument pas se dire ça, ce sera un espoir pour guérir les patients atteints du VIH.
Mais oui, c'est à 8.
Alors, je voulais revenir sur le côté sur la question de résistance, en effet, pour dire que les traitements, tant qu'ils sont des antirétroviraux, c'est une question de temps. Le virus mute tellement qu'il va développer une résistance. Ça, c'est un fait. La question d'avoir plusieurs types de traitements, toutes les sortes d'antirétrovirales, ça permet justement de contourner ça. Et dans des situations où la disponibilité des traitements sont très limitées, et que les gens n'ont pas d'option, en effet, ça devient vraiment un échec généralisé. Sur le côté de passion de Londres, comme on l'appelle, il faut prendre le recul.
La passion de Londres, c'est aussi
c'est le deuxième. Ouais. C'est le deuxième patient qui a été reporté récemment sur qui a été guéri, mais on a un recul que de 18 mois. Donc il est vraiment en rémission. Donc on peut pas encore dire qu'il est guéri. Donc c'est le cas du patient de Berlin qui a été guéri en 2008. Et comme ça a été dit, c'est quelque chose de vraiment une anecdote, on peut dire vraiment, parce qu'il y a 35 millions, 36 millions de personnes qui vivent avec le VIH, et il n'y en a que deux qui ont guéri, clairement un en rémission. Et de dire que le système ou l'approche qui a été menée pour ces personnes-là n'est pas du tout applicable pour la grande majorité. Non seulement parce que ces personnes-là ont eu des greffes, mais c'est parce que ces personnes-là ont été suivies dans des systèmes de santé aussi, qui est vraiment à une hauteur exceptionnelle. La personne qui a été guérie en 2008, il subit toujours des tests réguliers avec des biopsies pour voir si vraiment le virus n'est plus là. Donc c'est pas anodin. Mais par contre, ça donne vraiment une raison, une preuve de concept pour se projeter scientifiquement, de dire, en effet, le travail qu'on peut faire sur ces mutants, d'avoir une approche vraiment poussée, on peut arriver à guérir de ce virus et au moins être en rémission. Donc ça, pour ça, c'était un champ de recherche très développé.
J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Hey, je la regarde enchaîner les cigarettes. Hey, ses larmes coulent en silence, on entend toujours les cigales. On se blesserait même avec zéro mot. Pourtant aucun mur sur cette terre ne pourrait étouffer le cri de nos phéromones. On risque pas de tenir longtemps. Tu m'as même comparé à Lucifer. Maintenant tu bois et tu veux bien de moi. Non mais j'hallucine, hein. Je sais déjà ce que la distance entraîne. Soit c'est la guerre pendant 10 ans sans trêve. Soit je la quitte en lui disant: garde le sourire, plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Bébé, ça moins fort que j'oublie que c'est le chaos. Autour c'est le chaos. Regarde-nous, le destin pas honte. Les dieux ont pas honte. J'ai tout foiré cette année, c'est toujours en chantier. Est-ce qu'on peut revenir en janvier? Son regard me traverse le corps comme une longue aiguille. On dirait bien qu'on est cuit, nous deux dans la même voiture, on fonce vers la mort. On se déteste tellement qu'on refait l'amour. Parce que c'est comme de la drogue, on a de quoi planer. Sur son dos, mon corps, je fais de l'aquaplaning. Le problème, c'est que ça me rappelle pourquoi je l'aime. Je revois le début, les premières semaines. On pourrait repartir à zéro et prendre le premier avion comme dans un film de merde. Mais c'est du délire, garde le sourire. Plus rien n'est grave. Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne, nos deux corps pourraient mourir. J'ai déjà fait le deuil. Maintenant pas loin de moi, une larme cachée dans l'œil. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai. Je n'avouerai jamais que certaines de mes propres émotions m'effraient. Je te déteste comme cette phrase qui dit: c'était trop beau pour être vrai.
Trop beau, le nouveau L'Homme Pâle en playlist sur France Inter, la programmation trop forte de Jean-Baptiste Audibert.
Le nouveau rendez-vous.
Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Nous nous battons contre Dieu pour qui l'épidémie est une aubaine, car elle tue depuis plus de 10 ans dans l'indifférence générale.
Pendant des années, j'ai voulu tenir ce mot sida le plus loin de moi possible. J'ai jamais voulu écrire ce mot, quoi.
Garçon, il s'appelait Nils.
est parti en quelques semaines. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais séropo, moi aussi.
Un baba au rhum et hop, aux urgences.
Laurent Goumard.
Alors évidemment, j'ai eu le droit au couplet sur mon poids. Au moins toi, avec ton sida, tu peux bouffer ce que tu veux.
Sur France Inter.
SIDAction, 25 ans après, où en est le combat? Réponse peut-être du côté de la fiction qui revient depuis 2 ans sur le dossier. On vient d'entendre des extraits de films 120 battements par minute ou encore Aimer, plaire et courir vite de Christophe Honoré, Hervé Guibert en écho au théâtre Les Idoles, la pièce de Christophe Honoré, et puis bien sûr un extrait des Engagés, c'est votre série, Sullivan le Postec. Quelle place d'ailleurs pour le sida dans cette série qui est centrée sur un groupe de militants gays, lesbiens et trans?
En fait, c'est vrai que dans les 2 premières saisons qui ont été diffusées jusqu'ici, la question n'était pas absolument centrale. Mais par contre, ce qui était intéressant, et notamment dans cette scène dont on a entendu un petit extrait où Claude revient sur son passé, c'est d'expliquer à quel point la lutte contre le sida était structurante dans tout le militantisme LGBT, en fait. C'est pas complètement un hasard, mais en fait, là, on fête les 25 ans du Sida Action, et hier soir, il y avait une soirée pour fêter les 25 ans du Centre LGBT de Paris, en fait. C'est la lutte contre le sida et ses combats qui a mis en lumière la nécessité de structures légales pour les couples homosexuels, parce qu'on a connu de nombreux drames à cause de ça, parce que sans Pax, sans mariage, en cas de décès, il y avait beaucoup de problèmes qui étaient rencontrés. Et donc voilà, le mouvement s'est structuré autour de cette cause énormément, en tout cas dans un second souffle après les luttes un peu plus radicales, révolutionnaires des années 70. Et donc du coup, l'empreinte de cette lutte-là est toujours très présente dans les associations d'aujourd'hui. Je vais y arriver, même si effectivement, c'est pas forcément verbalisé au quotidien.
Comment vous comprenez justement Florence Thune aujourd'hui, Florence Thune, vous qui faites partie du mouvement du SIDAction, comment vous comprenez cette résurgence de la fiction qui s'intéresse au cinéma, au théâtre, donc en série aussi, à l'histoire du SIDA, alors que ça avait disparu de la fiction depuis des années en fait?
Je pense qu'il y a aussi un besoin justement de revenir sur cette historique qui est finalement pas si loin de ça que nous. Enfin, on est dans les années 90 et le film 120 battements par minute, c'est pas un film historique d'il y a 50 ans. Ce qui est aussi intéressant, c'est que on a eu l'occasion avec SIDAction de projeter auprès de différents publics. Et une remarque m'avait beaucoup frappée d'un jeune d'une vingtaine d'années qui m'avait dit « mais c'est une histoire vraie ». Et se dire, mais finalement, des jeunes aujourd'hui se demandent si c'est une histoire vraie, alors que ça s'est passé en 95, 80, 90. C'est assez frappant, finalement, du fait que c'est peut-être déjà tellement passé dans l'historique qu'on en a oublié ce qu'étaient ces premiers combats. Et je pense que le film, 120 battements par minute, a permis aussi de se rappeler de ce qu'avait été cette bataille aussi et cette lutte, ce militantisme.
Daniel Messager.
Oui, et puis c'était cette énergie aussi. Enfin, ces gens-là, ils jouaient leur peau quand même. Ils jouaient leur peau. Donc, il y avait une énergie, il y avait un engagement, il y avait quelque chose qui était tellement vital pour eux. Alors, même si, effectivement, il n'y a plus forcément une cause aujourd'hui qui est exactement la même, mais c'est vrai que, quelque part, on regrette un peu que dans les associations, parfois, il n'y ait pas autant d'énergie, il n'y ait pas autant de stimulation, il n'y ait pas autant de quelque chose qui vous emporte loin. Mais c'est parce que le contexte est différent. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'on en parle moins, je ne sais pas, mais en tout cas, nous, dans les journaux d'information, on essaie de mettre le sujet, pas simplement quand il y a une petite actualité. Je pense que c'est un sujet qu'il est difficile parfois de porter quand il n'y a pas une grosse actualité, mais que c'est notre devoir de porter quand même régulièrement.
En préparant l'émission, je suis tombé sur un article du Monde que je trouvais particulièrement intéressant sur le fait de comment on vieillit avec le sida. Parce que c'est vrai que les médicaments antirétroviraux ont permis, si je suis les chiffres, 11 000 séropositifs d'atteindre l'âge des 60 ans. Pour autant, ces traitements provoquent beaucoup d'effets secondaires. Vous-même, Florence Thune, vous avez témoigné dans cet article en disant que vous alliez bien, mais que vous sentiez bien que c'était pas forcément toujours évident. Et donc, dans 10 ans, comment votre corps va supporter tous ces traitements? C'est aussi une des questions que vous prenez en charge avec SIDAction.
Oui, la thématique vieillir avec le VIH. Alors, on est toujours heureux de se dire finalement qu'on vieillit avec le VIH, hein, alors qu'on pensait mourir. Enfin, quand je l'ai appris moi en 96, je me tenais pas beaucoup d'années devant moi. Je savais pas encore qu'on parlait des trithérapies à ce moment-là. Mais de fait, on voit dans les associations qu'on soutient à SIDAction, à la fois des personnes qui sont à la fois très isolées socialement aussi, qui ont vraiment été dans un isolement durant ces 20 dernières années, qui n'ont plus travaillé, etc., qui ont besoin vraiment de ce soutien, et puis aussi de ce qui se développent chez certains, de maladies cardiovasculaires, de comorbidités, qu'on voit aussi apparaître, à la fois dû à la persistance malgré tout du VIH depuis 20 ans, 30 ans dans leur corps, et puis de ces traitements, hein, et parmi lesquels certains ont eu des forts effets secondaires, effectivement, au début, et qui restent aussi, même s'il y a moins d'effets secondaires visibles, chaque jour, prendre des médicaments, ce n'est pas anodin.
Sylvain Le Postec ?
C'est aussi un axe essentiel de la recherche, c'est de simplifier ces traitements et de les rendre beaucoup plus supportables, et c'est là qu'on l'a un peu mentionné, mais on est passé de prise de 25 médicaments par jour au tout début des trithérapies à aujourd'hui prendre un médicament tous les jours, 5 fois par semaine, et donc ça c'est évidemment beaucoup plus supportable pour le corps, si bien que les études les plus récentes mentionnent que en fait l'espérance de vie d'une personne séropositive est aujourd'hui la même qu'une personne qui est pas séropositive, donc on a énormément progressé et il faut continuer à progresser, je pense, dans cette direction.
En effet, je pense...
Je
suis tout à fait d'accord du progrès qui a été fait. Il faut quand même toujours dire que vivre avec, Florence vient de le dire, n'est pas évident. Et avec l'âge, les comorbidités se développent. Donc les interactions médicamenteuses sont aussi un enjeu pour les personnes. Parce que le trithérapie, les antirétroviraux interagissent avec les diabète, ils interagissent avec les médicaments pour le cardiovasculaire. Donc, et la prise en charge pour les personnes ne sont pas tout à fait bien ficelées. C'est-à-dire, personne qui est porteur du virus est suivi par un infectiologue. Oui. Mais dès qu'il développe une comorbidité ou un problème cardiaque, il doit avoir un cardiologue qui n'a pas intégré la notion de la personne qui est porteur du virus. Donc, tout ça n'est pas si simple que ça pour la personne, pour naviguer dans le système de santé, même en France, qui est une bonne prise en charge.
Et puis je crois aussi qu'il y a des inégalités quant au statut des séropositifs et des séronégatifs, par exemple. Est-ce qu'il est vraiment possible de souscrire à une assurance vie quand on est séropositif ?
Ça dépend si vous décidez d'être honnête ou pas.
Oui, voilà, c'est ça. Donc, moi, par exemple, il y a quelque temps, j'ai décidé d'être honnête. Autant dire que je suis en train d'abandonner le parcours du combattant parce qu'il faudrait que je retrace ma vie avec le VIH et tous mes bilans biologiques depuis 22 ans. Donc, autant dire que, voilà. Ça concerne d'autres pathologies aussi, hein. En revanche, c'est là où la science se confronte avec la réalité. C'est-à-dire que, effectivement, la science nous dit, vous avez une espérance de vie, égale aux personnes séronégatives.
Mais dans quelles
En revanche, on vous rappelle sans arrêt que c'est pas le cas. Et soit, dans ce système, soit sur d'autres aspects où on continue à nous dire, j'ai eu moi récemment une consultation avec une anesthésiste qui m'a dit vous allez passer en dernier au bloc opératoire parce que vous comprenez avec le VIH. Donc je lui ai dit non, je ne comprends pas pourquoi je passerai en dernier au bloc opératoire. Donc on continue à recevoir régulièrement ce type et qu'on soit contaminé très très récemment ou depuis 20 ans. Hein, ce qui est encore très prégnant aujourd'hui, c'est effectivement cette question de la stigmatisation. Et on parlait des personnes qui vieillissent avec le VIH. On pose maintenant la question de qu'est-ce qui va se passer quand les personnes intègrent des maisons de retraite, des EHPAD, où là aussi, la stigmatisation, on commence à avoir des témoignages qui nous font un petit peu peur.
Et où le personnel n'est pas du tout préparé à ça. Hein.
Mais tout le monde, c'est-à-dire que même le personnel de santé aussi oublie la question du VIH. Quand on parle aujourd'hui de 6400 personnes qui découvrent leur séropositivité, on en a 30% qui sont déjà en stade sida. Ça veut dire qu'à un moment, dans leur parcours, un médecin ne leur a peut-être pas proposé le test du VIH sur une pathologie un peu spécifique liée au VIH, et ce réflexe-là aurait eu lieu il y a 20 ans ou il y a 10 ans, on oublie.
Oui. Daniel Messager ?
Oui, moi je suis assez choquée quand même de ce que dit Florence sur le bloc opératoire. Enfin, un bloc opératoire, il est désinfecté, point barre. On n'a pas à savoir si la personne est porteuse de VIH ou pas. C'est dans le personnel médical qu'on tient encore ce type de propos, je trouve ça complètement scandaleux, ahurissant quand même, vraiment.
C'est pour ça que vous dites que le SIDAction, c'est encore plus un défi politique et social qu'un défi scientifique et médical, Florence Thune ?
Alors, ça reste un défi scientifique et médical, d'autant plus qu'on finance la recherche. Néanmoins, effectivement, on doit mener à nouveau des combats politiques. Hein. Notre ancien président Pierre Berger rappelait que la lutte contre le sida, c'était un combat politique. Ça le reste de manière extrêmement forte, et notamment pour défendre aussi les droits des personnes qui sont particulièrement exposées au risque de contamination.
Daniel Messager, pour le mot de la fin.
Oui, alors juste une image, vous vous souvenez sans doute à quel point l'association Aide avait choqué quand elle avait présenté, enfin elle avait choqué certaines personnes qui ne voulaient pas mettre ces affiches-là dans leur ville où on voyait deux personnes gays, masculines s'embrasser. Voilà, je crois que tant qu'on n'aura pas franchi ce cap d'accepter ces images, on accepte pour le tabac de présenter des images fortes, il faut aussi, pour inciter les gens à se faire dépister, à connaître toutes les données de la maladie, accepter de donner des images qu'on rencontre dans la rue, il y a des personnes homosexuelles qui s'embrassent dans la rue, affichons-les, osons présenter ces images et on aura franchi un grand pas aussi vers l'acceptation.
Mais merci à vous tous. Florence Thune et Sérawit Brooklandé, merci. Le site d'Action, c'est donc du 5 au 7 avril. Je renvoie bien évidemment sur le site sidaction.org et le numéro de téléphone, le 110. Sullivan Le Postec, la série Les Engagés, disponible en DVD et VOD. Un seul site, lesengagés-laserie.fr. Et enfin, Daniel Messager, on vous retrouve bien sûr dans les journaux de France Inter. Merci à vous.
Imagine girls around town assemble. Traveler's son, they come ask him where he came from, 'cause they've watched him washing his face near the pond. A curious boy, and they wonder where he came from. He says, I have seen the world's most beautiful places. Still I feel as if I'm a walking machine, watching it all through a screen. There ain't nothing in between to me. This might as well not be real. They gather around him, so many of them, they all sing about the pleasures of life, and he cries, why can't I sing along with some feeling or some meaning? It feels like I've always been blind. I don't know why you girls are so kind, but there are so many in line whose lives aren't as lost as mine.
Et on se quitte sur le vibrato de Tamino, Indigo Night. On vous souhaite la nuit bien bleue, pas blanche, bleue. Le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Cette année, vous le savez, hein, c'est chaque jour dès 18h en avant-première sur franceinter.fr et donc en podcast, ou alors 22h minuit pour les plus classiques d'entre vous à l'antenne, comme tout le monde. On vous attend sur Facebook, sur Twitter et Instagram avec le hashtag NRVFI. On attend vos commentaires. Réalisation, elle était signée bien sûr Marion Lelay et Juliette Medeviel, Virginie Rouzic, Benoît Lagane, Corinne Valente, Laure Grand Besançon et Gaëtan Lévy, ça c'est pour la préparation. À la technique ce soir, Clément Berman et Théo Gomard. Demain, le NRV c'est version light parce qu'on va laisser la place à l'Orchestre Philharmonique de Radio France qui va interpréter les classiques du label Headbanger Records dans le studio 104. On se retrouve donc à 20h15 à l'antenne, mais toujours dès 18h sur le net, et on sera là avec elle.
As-tu vendu ton âme à Lucifer ?
Je ne me suis jamais vendue à personne, je suis une fille bien !
23h15, rendez-vous à l'antenne avec Élodie Boucher qui se venge dans Les Sorcières de Salem, Lou Genet qui s'adonne à l'érotisme dans son premier film Curiosa. Tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. À demain.
Rendez-vous.
Tu m'as donné rendez-vous demain.